Rendez-vous dans cette émission. L'éruption du Nyiragongo samedi dernier a occasionné plus de 30 morts et 19 villages enservis par des laves. Mais même si, à l'heure actuelle, les laves ont cessé de se déverser sur les pentes du volcan, de nombreuses secousses restent ressenties à plusieurs endroits de la province, inspirant la nécessité de rester prudent face à de nouvelles menaces du volcan, selon les experts. Quelle est la réelle nature de ces menaces du Nyiragongo actuellement identifiées? Et quelles stratégies efficaces se mettent en place pour éviter tout risque ou minimiser les dégâts en cas de nouveaux sinistres? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous avons dans cette émission Julien Paluku, il est ministre de l'Industrie du gouvernement central. Il fait partie de la délégation du gouvernement dépêchée à Goma depuis l'éruption volcanique de samedi dernier. Bonsoir, monsieur le ministre Julien Paluku.
Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir à tous les auditeurs et à toute la population du Nord Kivu, particulièrement de Goma et de Nyiragongo.
Professeur Albert Tienge Ngendangenda, il est magmalogue, volcanologue et géologue. Il vient de publier un ouvrage intitulé Volcanologie de la chaîne de Virunga. Bonsoir, professeur Albert Tienge Ngendangenda. Allô, professeur Ngendangenda, apparemment il n'est pas encore là. Mario Ngavo, il est président de la société civile urbaine de Goma, au Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Mario Ngavo.
Bonsoir, messieurs les journalistes, et Paul et à toute la communauté victime de cette éruption volcanique.
Merci, professeur Albert Ngendangenda. Est-ce que vous êtes là? Voilà, je crois qu'il va nous rejoindre après. Merci et bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À Goma, plusieurs maisons et murs de clôtures effondrés, d'importantes fissures ouvertes dans certaines zones, ainsi qu'une dizaine de blessés. C'est le bilan provisoire des séismes intenses enregistrés dans la ville depuis lundi à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. Les services de protection civile appellent la population à la vigilance et à quitter les maisons fissurées, mais aussi d'appeler les numéros verts de la protection civile en cas de danger. Sifa Maguru pour les détails.
D'après Joseph Makundi, coordonnateur provincial de la protection civile, les dégâts matériels sont importants. Sans donner les chiffres, ses responsables ajoutent que cette situation est accentuée à cause d'anciennes fissures qui se sont réouvertes avec les tremblements actuels. Il demande à tous les habitants qui remarqueraient des fissures dans leurs maisons, surtout les maisons en étage, de quitter immédiatement et d'appeler les numéros verts de la protection civile, les 082 08 00001 pour faire face aux dégâts. Ces effondrements des maisons et autres murs de clôture sont enregistrés dans plusieurs quartiers, notamment Katindo. Certaines victimes sont prises en charge à l'hôpital provincial de Goma où deux grandes fissures béantes se sont également ouvertes. Des fissures qui seraient en communication avec celles qui se dessineraient déjà au mont Goma, le point le plus haut de la ville, affirment certains observateurs. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au Nord Kivu toujours, au moins 209 tremblements de terre ont été enregistrés hier mardi dans les périmètres du volcan Nyiragongo. La magnitude la plus élevée étant celle de 5,2 sur l'échelle de Richter, a annoncé le gouverneur militaire du Nord Kivu. Dans une communication officielle, le lieutenant général Ndima Constant annonce une série de comportements que la population de Goma et ses environs devraient adopter en ce moment de crise. Bernard Nyangi pour les détails.
L'énergie libérée par ces séismes a rouvert plusieurs fractures, jadis recouvertes par d'anciennes coulées de lave ou remblayées par la population, indique cette communication officielle. Ce qui affecte particulièrement les quartiers Mabanga nord et sud, les volcans et Bujovu. Dans quelques-unes des fractures, la température va jusqu'à 700 degrés Celsius. En plus, la ville faisant face à la pollution de l'air par les cendres volcaniques et une forte concentration de gaz carbonique qui s'échappe à plusieurs endroits, le porte-parole de la cellule de crise annonce une série de conduites à tenir en ce moment. Major Njiki Kaiko.
Le gouvernement militaire des provinces recommande de ne pas marcher sur la nouvelle coulée de lave car elle est encore chaude à l'intérieur, de laver suffisamment les légumes et couvrir proprement les aliments et la vaisselle, de ne pas utiliser les eaux de pluie pendant cette période de crise, de ne pas paniquer pendant la survenue des tremblements de terre, d'occuper les rez-de-chaussée des maisons, d'étages en cas de forte sécousse.
Le gouverneur appelle en plus la population de continuer à respecter le plan de contingence et le plan communautaire d'évacuation en vigueur en cas d'urgence. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Merci à vous, Bernard Nyangi. Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie du gouvernement central et vous faites partie de la délégation du gouvernement dépêchée à Goma depuis l'éruption volcanique de samedi dernier. On voit qu'après cette éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier, la menace est toujours permanente, elle est toujours réelle. Et face à cela, certaines personnes se demandent ce que fait concrètement le gouvernement de la République dans le sens de permettre à la population de Goma d'éviter d'être victime une fois de plus d'une éventuelle reprise d'éruption volcanique.
Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par m'associer aux douleurs ressenties par la population de Goma et particulièrement de Nyiragongo pour ce qui s'est passé le 22 mai dernier. Et pour dire à toute l'opinion qu'effectivement en matière de volcans, il y a peut-être trois choses à dire. La première chose, c'est que les volcans est un phénomène qui est naturel, hein, et dont l'activité ne dépend pas de l'homme. La deuxième chose, c'est que l'homme ou l'autorité n'a que pour mission de suivre l'activité du volcan, de constater ce qui peut arriver, et peut-être de décider sur les mesures à prendre au cas où il s'est produisé. Et la troisième chose à dire en matière de volcan, c'est que la population est tenue à suivre effectivement les instructions données par l'autorité locale, et ici à l'occurrence c'est le gouverneur militaire qui est en train de communiquer régulièrement sur ce qu'il faut faire. Alors maintenant, nous avons été dépêchés sur le terrain par le président de la République comme membre du gouvernement avec des instructions claires du premier ministre pour venir suivre aux côtés de l'autorité provinciale ce qui se passe avec les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma et ceux de la protection civile, de manière à permettre à l'autorité de prendre à temps utile la mesure qu'il faut pour que finalement les populations soient épargnées. Et je dois dire que depuis que nous sommes là, nous avons eu beaucoup de réunions avec les experts de l'Observatoire volcanologique. Il y a quelques temps, nous venons d'avoir d'ailleurs une réunion en vidéoconférence avec tous les experts du monde entier sur la manière dont eux perçoivent, parce que le volcan est suivi à travers le monde entier, la manière dont eux perçoivent l'activité qui se déroule actuellement. Il y a une éruption, il est vrai, le 22 mai, mais actuellement, il y a quand même des activités intenses de sismologie, c'est-à-dire des activités de tremblement de terre, en des termes clairs, qui sont devenues successives depuis l'écoulement des laves sur une partie de la ville de Goma ou du territoire de Nyiragongo. Et donc, avec ces mouvements sismiques qui deviennent de plus en plus nombreux, ça contraste un peu avec la première théorie que nous avons connue en 1977 et en 2002, lorsque, à la suite de l'avènement d'une éruption volcanique, les mouvements sismiques ont précédé l'éruption volcanique. Mais ici, on sent plus des mouvements tectoniques qui ont une intensité importante après l'éruption volcanique. C'est ce qui a motivé l'autorité locale à appeler la population à continuer à demeurer vigilante, surtout parce que ces tremblements de terre sont en train de causer des dégâts sur des maisons, et donc il y a de fortes possibilités que des maisons s'écoulent sur des populations. Donc nous sommes là pour qu'ensemble avec l'autorité locale et les experts de la volcanologie, que nous puissions à temps réel prendre la mesure qu'il faut pour sauver des vies humaines.
Le danger n'est pas seulement représenté par l'éventualité d'une autre éruption, mais également par l'émission du gaz qui fait déjà des victimes, hein, le gaz qui est émis par la lave, et aussi la cendre, n'est-ce pas, qui est nocive à la santé. Et face à ces problèmes particuliers, Monsieur le Ministre, qu'envisage le gouvernement?
Oui, il y a plusieurs dangers, Monsieur le journaliste, à l'intention de tous les auditeurs. D'abord, le premier danger, c'est l'éruption. Et là, je laisse aux experts de savoir s'il peut y avoir, oui ou non, une possible éruption après la première. Ça, c'est pas à moi de répondre, parce que c'est une question technique. Le deuxième danger, c'est le lac lui-même, le lac Kivu. Parce que, comme vous le savez, au moins là, je peux le dire avec assurance, parce que je sais que nous avons géré ça à un moment donné. Dans les lacs Kivu, existent deux types de gaz. Il y a le gaz méthane et le gaz carbonique qui est le COD. Alors, les dangers, c'est que, effectivement, s'il y a beaucoup de mouvements de tremblements de terre, que le COD qui est enfoncé autour de 60-70 mètres à l'intérieur du lac ne puisse remonter à la surface. Et là, on risque de connaître le phénomène qui a été observé au Cameroun en 1986 au lac Nyoche. Le danger suivant, c'est le golfe de Kabuno. Pour ceux qui connaissent la ville de Goma, quand vous allez vers Sake, il y a une forte concentration du gaz carbonique dans ce golfe de Kabuno. Et donc, si les mouvements de tremblement de terre s'orientent vers ce golfe de Kabuno, étant donné que le gaz carbonique est trop superficiel, situé à peu près 11 mètres à l'intérieur du lac Kivu, eh bien, il y a de fortes chances qu'il ne puisse y avoir une explosion qui créerait beaucoup de dégâts. Et donc, tous ces éléments-là sont en train d'être suivis par des techniciens de l'Observatoire volcanologique avec tous les experts du monde entier pour qu'on oriente la décision de l'autorité, quand la prendre, comment la prendre et quoi dire à la population. Donc vous comprenez que nous sommes là pour garantir la population que, et nous et la population, nous sommes placés dans les mêmes conditions, mais nous ne pouvons pas ne pas communiquer parce que lorsque viendra le moment d'orienter la population pour une grande décision, eh bien l'autorité prendra ses responsabilités pour le dire. Voilà donc ce que je peux dire très brièvement, mais la vigilance reste de mise, la prudence reste de mise à la suite de tout ce que nous connaissons comme phénomène consécutif à l'éruption du 22 mai 2021.
Vous avez dit dans votre première intervention que vous êtes en contact avec l'OVG, vous avez tenu beaucoup de réunions et vous avez affirmé, n'est-ce pas, que l'homme est tenu à suivre l'activité du volcan. Et lors des réunions, des différentes réunions avec l'OVG, qu'est-ce que les experts de l'OVG vous disent au sujet de l'évolution de la lave? Est-ce qu'elle continue à créer des fissures de galeries souterraines? Elle évolue comment? Qu'est-ce que les experts disent?
Bon, je ne peux pas prendre le risque de donner tous les éléments que les experts disent sans leur autorisation. Tout ce que je peux dire, c'est que à la suite des mouvements de tremblements de terre qui sont venus récurrents, vous avez parlé de 239 mouvements pour la seule journée du mardi, eh bien, quand il y a tremblement de terre, même celui qui n'a pas de connaissances en matière de gestion des volcans, il sait que ça peut créer des fissures. Et évidemment, la ville de Goma, comme le territoire de Nyiragongo, à la suite de plusieurs tremblements de terre, on peut assister à plusieurs fissures. Mais une fissure ne signifie pas nécessairement que ça va être une coulée de lave prochaine. Une fissure peut être une occasion pour séparer une partie de la terre et créer des dégâts humains, des dégâts collatéraux consécutifs au tremblement de terre. Donc, je crois que au stade actuel, les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma nous demandent d'observer plus la prudence. Et comme il y a beaucoup de mouvements de tremblement de terre, ils recommandent à la population de ne pas trop se concentrer dans des bâtiments surélevés au risque que peut-être lors de l'écoulement des bâtiments, on puisse assister, si pas des morts, mais alors à des blessés. Mais ils nous disent qu'ils nous communiqueront régulièrement les updates, c'est-à-dire les mises à jour de ce qu'ils pourront observer pour permettre à l'autorité de savoir qu'est-ce qu'il peut dire à sa population pour que les pires ne puissent pas se produire.
Oui, nous savons que c'est une situation qui est difficile à gérer. Hein. On les voit quand ce genre de catastrophes se produisent à travers le monde, même pour les pays bien préparés à ce genre de catastrophes. On sent les difficultés auxquelles ils sont invités, n'est-ce pas, pour gérer ces situations. Mais vous ne pensez pas que le gouvernement congolais prend beaucoup de temps pour apporter des solutions adéquates à la population, comme par exemple quand il s'agit de ces problèmes de manque d'eau? Il n'y a pas d'eau potable, n'est-ce pas, dans la ville de Goma, il n'y a pas d'électricité. Et par rapport à ce genre de difficultés, vous ne pensez pas que le gouvernement prend beaucoup de temps pour solutionner ces problèmes?
Oui, mais vous l'avez bien dit, même tous les gouvernements du monde qui ont une capacité de réaction rapide ne peut pas réagir en un jour ou deux jours. L'éruption a eu lieu le samedi 22. Nous sommes arrivés immédiatement dans la nuit du dimanche au lundi. Et déjà à partir du lundi, des actions vont commencer à être posées. Par exemple, s'agissant de l'eau potable, nous sommes montés jusqu'à la citerne qui produisait de l'eau qui a été ensevelie presque par la lave. parce que l'eau était pompée à partir du lac Kivu jusqu'à une hauteur de 1500-1600 mètres d'altitude afin de permettre à l'eau de redescendre par gravitation dans la ville de Goma. Alors, la tuyauterie a été endommagée, quels que soient les moyens dont on peut disposer, même si on est européen ou américain, on ne peut pas rétablir tous ces circuits de distribution de l'eau potable à 24 heures. C'est impossible. Donc, même si on a tous les moyens à notre disposition, il est impossible de rétablir tous les réseaux de distribution de l'eau à 24 heures. Mais au moins, le travail que nous avons fait avec les partenaires, parce que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec les partenaires humanitaires, nous pouvons rassurer une partie de la ville de Goma que dans les semaines qui vont suivre, ils nous ont parlé d'une dizaine de jours, on peut déjà, ne fût-ce que partiellement, rétablir les réseaux de distribution pour la population de Goma. Mais en attendant, il va être pris des décisions de convoyer l'eau à partir du lac, l'eau qui est chlorée, parce que si on commence à donner à la population de l'eau qui n'est pas chlorée, qui n'est pas traitée, il y aura des risques de choléra et d'autres maladies d'origine hydrique. S'agissant par exemple de la route Goma-Rutshuru, les travaux de décapage ou au moins de remblayage de la lave ont déjà commencé. Et là aussi nous pouvons nous permettre de prendre les risques de dire que dans moins de 10 jours, la population peut commencer à emprunter les tronçons Goma-Rutshuru, parce que si on ne le fait pas, évidemment, les prix vont commencer à monter sur le marché, et à Goma et à Bukavu, parce que Goma était alimenté par trois voies principales. La première voie, c'était Rutshuru, la deuxième voie, c'était Masisi, dont le pont est coupé, la troisième voie, c'était le Rwanda. Le Rwanda connaît les mêmes problèmes que nous, donc il ne peut pas vider son stock en faveur de la RDC. Rutshuru est coupé par la lave, Masisi est coupé par les ponts. Donc, à ce moment où on est à Goma, effectivement, nous sommes comme enclavés et il faut des mécanismes de désenclavement rapide dans l'ouverture de la route Rutshuru. Donc, il y a des solutions qu'on est en train d'apporter au fur et à mesure. Elle ne peut pas venir comme par une génération spontanée.
Merci.
On va les chronométrer dans une périodicité qui va permettre à ce qu'on n'assiste pas à des catastrophes. Maintenant que je suis en direct à la radio Capi, je viens d'assister à la distribution des vivres, des médicaments, d'eau potable à tous les sinistrés, dont du gouvernement central, ensuite à un don important de médicaments des partenaires remis à l'hôpital Keshero, comme pour vous dire que les solutions sont en train d'être trouvées au fur et à mesure que nous sommes au courant des problèmes.
Merci.
Qui nous sont présentés par les autorités locales.
Merci. Professeur Albert Tiengé Ungenangenda, est-ce que vous êtes là? Professeur Albert Tiengé Ungenangenda, vous êtes là? Apparemment, il n'est pas encore là. Marion Gaveau, vous êtes président de la société civile urbaine de Goma, au Nord Kivu. Vous venez de suivre le ministre de l'Industrie du gouvernement central, le ministre Julien Paluku. Après l'avoir suivi, quelles sont vos impressions?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je salue tous les auditeurs de la radio Capi. Je remercie mon gouverneur, le ministre actuel Julien Paluku, parce qu'au moins il maîtrise la province du Nord Kivu. Mais la société civile ainsi que la population est déçue. Elle est déçue fortement parce que ni le gouvernement national, ni le ministère de la recherche scientifique, l'OVG, n'ont pas été en mesure d'informer et de surveiller le volcan. C'est bien qu'on ait la délégation aujourd'hui, mais résoudre ce problème, c'est surveiller le volcan et informer la population à temps. Ça, c'est pour essayer de réduire les conséquences qui sont aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut bien gérer les conséquences aujourd'hui, mais plus il faudrait bien protéger et alerter la population. Ce n'est pas au XXIe siècle où on peut, n'est-ce pas, gérer les gens et qui est surprise et que même l'OVG n'est pas à mesure d'informer les gens, d'alerter. Ça, c'est d'abord une première des choses. Aujourd'hui, il y avait un plan de contingence, bien conçu d'ailleurs, bien testé à Goma et simulé, mais qui n'a pas été mis en pratique lors de l'éruption. Alors nous pensons, ça c'est quel type de gouvernance? Aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences. Les maisons ont été calcinées, broyées par la lave, autour de 1500 parcelles. Les activités commerciales sont au ralenti. Il y a eu des champs, des pâturages qui sont rendus en pierre. La route Goma, Rutshuru, Butembo est bloquée, ce qui a des conséquences déjà sur la flambée des coûts des denrées alimentaires dans la ville de Goma et avec le risque qu'il y ait même vente de produits avariés. Il y a également les déplacements de population. Les populations sont stressées. Avec tous ces tremblements, on ne sait pas quoi faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Les enfants qui ont perdu leur famille sont à la recherche des parents. Malheureusement, il n'y a pas eu encore, selon la définition du plan de contingence, à préparer les lieux où les gens peuvent se rendre. Alors ça inquiète la population. Aujourd'hui, il y a encore des tremblements de terre récurrents. Nous avons maintenant des fissures au niveau des clôtures. Nous avons des fissures au niveau des murs, que ce soit des murs internes et des murs externes. Nous avons la problématique des problèmes fonciers. On peut bien nous dire de quitter les maisons à étage, mais à Goma, il y a une problématique des problèmes fonciers parce que nous n'avons pas de surface dans les parcelles pour essayer de s'abriter. Je vous rappelle encore que ici à Goma, il pleut chaque nuit. C'est un temps, on s'est dit, il faut dehors. Donc, les conditions ne sont pas bien préparées pour essayer de limiter les dégâts. Il y a déjà des maisons qui s'écroulent dans les quartiers Katindo, donc proche du lac. Des fissures qui sont visibles et la population ne sait plus à qui se donner. Nous pensons que aujourd'hui, la population a besoin de l'eau potable, a besoin de médicaments essentiels, même si cette petite action a commencé. Nous saluons la venue de cette grande délégation de sept ministres. Mais nous nous disons de l'autre côté, pourquoi sept ministres? Pourquoi pas deux? Celui de la santé et celui de la recherche scientifique. Parce que là, nous voyons par rapport au coût qu'écouterait cette délégation en mission, c'est vrai, ils ont des apports, des expériences, mais nous voyons aussi l'enveloppe qui peut aller directement auprès des bénéficiaires. Et donc, nous, comme société civile, nous pensons qu'il faut urgentement qu'il y ait l'eau potable à la population, qu'il y ait la nourriture à cette population victime directe, qu'il y ait l'ouverture de la route. Il faut également sécuriser les personnes qui sont en train de quitter Goma vers Minova, parce que beaucoup de ces routes ne sont pas en bon état. Et dans ces routes, il y a des coupeurs de route, il y a des kidnappings. Et au niveau même de transport, nous sommes en train d'assister les bateaux qui sont en train de mettre à bord beaucoup de personnes au risque même de se faire chavirer. Donc nous pensons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, qui doivent aller tout droit au niveau de la protection des personnes, la protection de leurs biens. Et nous pensons aujourd'hui, par rapport à la problématique de la santé, comme vous le savez, le gaz est asphyxiant, il est toxique. Ce gaz-là contient des dioxydes de soufre, contient des monoxydes de carbone, contient des dioxydes de carbone. Et aujourd'hui, on voit la cendre qui est en train de s'épandre sur toute la ville. Ça crée des lésions au niveau des poumons, ça crée un manque de respiration, difficulté de respiration. Pourquoi? Parce que tout ça, ça n'a pas été bien alerté, on pourrait bien voyager et partir et préparer son voyage.
Marion Gavo, vous avez évoqué deux concepts importants, surveiller et informer. Surveiller les volcans et informer la population à temps, mais cela n'a pas été fait malheureusement. Et là, on est devant un fait accompli, il y a eu cette éruption, et il y a ces secousses, n'est-ce pas, qui sont presque permanentes et que nous sommes en train de déplorer. Et est-ce que la population de Goma est suffisamment informée sur l'activité de ces volcans? Est-ce que cette population est suffisamment informée sur toutes ces secousses, sur ces gaz émis par la lave? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations? Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela représente comme danger?
Nous saluons la communication du nouveau gouverneur militaire qui, après cette surprise, qui, après avoir vu les gens aller en débandade, on a vu les gens aller vers Saki, autour de 17 000 personnes entre 19h jusqu'à minuit. Ils ne savaient pas où aller. Ils sont avec des véhicules. Parce qu'il n'y avait pas la communication, ni l'OVG, ni la protection civile, ni le gouvernement provincial n'avaient pas donné à temps la communication. Maintenant, il y a des petites communications, comme pour l'hygiène, il faut laver les légumes, il faut porter des masques, il ne faut pas monter sur les laves, etc. Ça, c'est bien, mais ça vient en retard. Donc, les canaux de communication, n'est-ce pas, n'est pas aussi très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui a directement accès à la radio. C'est pas tout le monde qui a directement accès aux messages qui sont en train d'être envoyés par les téléphones ou par les réseaux sociaux. Nous pensons que la cellule de communication créée devrait plus aller et collaborer avec les Nyumbakumi, avec les chefs d'avenue, les chefs de quartier, de manière à ce que, qu'ils soient outillés et qu'ils soient pris en charge pour communiquer à temps les informations, parce qu'ils sont proches de la population. Nous, nous pensons qu'il faut toujours protéger au lieu de gérer les conséquences.
Des maisons sont touchées par de grandes fissures, et certaines s'écroulent, des routes sont coupées. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, je sais que c'est un sujet tabou, est-ce qu'on ne peut pas envisager de délocaliser les populations momentanément? Ou plus tard, pourquoi pas ne pas envisager de délocaliser la ville de Goma? Vous, de la société,
oui, qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est une très bonne question de réflexion. Délocaliser, oui, c'est parmi les méthodes, n'est-ce pas, du plan et les méthodes pour protéger les gens. Mais comme vous le savez, Goma est parmi les grandes villes économiques, n'est-ce pas, les grandes villes où l'infrastructure est à pointe, commençant par les routes, commençant par les bâtiments, et tous les autres investissements. Alors, c'est difficile. Il faut qu'il y ait un plan qui, n'est-ce pas, peut essayer de résoudre tout ce problème. C'est des macro-projets et à de long terme. Nous, nous pensons que comme on vit avec le sida, comme on est en train de vivre avec Covid, on peut aussi vivre avec les volcans. C'est pourquoi nous annonçons toujours qu'il faut que le ministère de la Recherche, qu'il faut que le gouvernement national puisse essayer de prendre en charge et de considérer la recherche, n'est-ce pas, dans notre pays. Il y a vraiment des fissures et ça fait peur. Mais je pense que provisoirement, et si les tremblements continuent, et si les recherches, ceux qui sont en train maintenant de vérifier et de contrôler les mouvements, parce que il fallait que la délégation arrive pour qu'on paye les gens de l'OVG, il fallait que la délégation arrive pour qu'on essaie de suivre le mouvement, s'ils nous disent que vraiment il y a trop de risques et que tout est préparé, par exemple sur Masisi, sur Bukavu ou sur Rutshuru, quand l'ouverture des routes sera faite bientôt, j'ose le croire, nous n'allons pas refuser, mais c'est un plan pour délocaliser les populations momentanément, c'est bien, mais la question de délocaliser la ville, vraiment nous pensons que pour maintenant, ça ne rentre pas dans les têtes des gens, parce que même dans d'autres pays, on essaie de vivre, de contrôler et vivre avec les volcans.
Merci, professeur Albert Tiengé Ongendangenda. Est-ce que vous êtes là? Professeur Albert Tiengé Ongendangenda, vous êtes là? Apparemment, il a des sérieux problèmes. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, les auditeurs ont aussi agi, ils ont donné leur point de vue par rapport à ces thèmes. C'est un thème qui intéresse beaucoup de gens. Vous allez donc réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Goma.
Chouk Mouidiroua, à partir de Kolwezi, en prenant connaissance de différentes communications de l'observatoire volcanique de Goma posté sur la toile, personnellement, j'estime que même pour l'OVG, ils ne sont pas trop précis si ces mouvements de tremblement de terre ressentis un peu partout à Goma, Gisenyi et Bukavu peuvent être un des signes annonçant une éventuelle réplique de l'éruption, surtout que cette dernière s'est manifestée par surprise. Ce qui me pousse à savoir s'il y aurait un lien entre les gaz méthane du lac Kivu et cette éruption, parce que selon les scientifiques et différents revues déjà lues, la montée du CO2 ayant entraîné cette éruption peut également être un danger pour les lacs Kivu dont les gaz méthane n'est pas exploité. D'où je pense, comme prévention temporelle, puisque nous sommes dans une situation d'alerte, Le gouvernement doit délocaliser la population qui habite sur les trajectoires qu'avaient empruntées ces dernières coulées de lave, aménager les centres d'accueil en cas d'une éventuelle réplique du volcan, vulgariser le plan de sortie ou d'évacuation déjà établi par l'OVG, et dans un bref délai, songer à exploiter les gaz méthane parce que c'est aussi une bombe à retardement qu'on doit désamorcer urgentement pour nous éviter les pires.
Monsieur le ministre Julien Paluku, votre réaction par rapport à ces propositions faites par l'auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi?
Oui, avant de réagir à l'auditeur, je voudrais placer un petit mot par rapport à mon frère Mario Ngabo qui a parlé de la délégation gouvernementale. Je voudrais tout de suite lui dire que si la délégation gouvernementale n'est pas arrivée dans les 48 heures, c'est la même société civile qui a retiré sur le gouvernement pour dire « Voilà, nous vous disons que ces gens de Kinshasa, ils ne s'occupent pas de la population du Nord Kivu, il y a tremblement de terre, il y a mort d'hommes, il n'y a personne qui soit arrivé. » Donc je pense que on ne doit pas chercher une chose à son contraire. La présence de la délégation gouvernementale est une marque de compassion, de réconfort, de soutien à toutes ces populations dans la détresse pour qu'elles sentent que même l'ensemble du gouvernement pouvait se déplacer uniquement pour cette fin. Les 200 dollars qu'on a utilisés pour payer les billets ne peuvent pas résoudre l'ensemble des problèmes que soulève la gestion d'un volcan. C'est donc une petite précision que je voulais donner. Maintenant, par rapport à l'auditeur, je pense que dire que l'OVG ne surveille pas ou n'a pas de maîtrise du volcan, je pense non. J'ai quand même été de ceux qui ont suivi cet observatoire volcanologique de Goma pendant longtemps, et même dans les réunions que nous venons d'avoir comme membres du gouvernement avec tous ces experts et nationaux et internationaux, on a senti une maîtrise et un élément nouveau que je porte à la connaissance de l'opinion. Pour une fois, à partir de 1977, des mémoires de ceux qui observent les volcans de Goma, 1977 et 2002, les volcans avaient toujours été précédés par une montée de température au niveau du sol. Mais maintenant, avec ces volcans ici, selon toutes les explications qui nous ont été fournies à partir de Toulouse, à partir de l'Italie, à partir du Japon, par les experts, ils nous ont dit que pour une fois, cette coulée de lave est sortie sans qu'elle soit observée une montée de température sur les instruments qui sont placés dans tous les points chauds à travers l'espace concerné par les volcans. Donc ça, je voudrais me permettre de les révéler à l'opinion par honnêteté scientifique que je dois les dire. Donc c'est pour que je précise à l'intention de l'opinion que les volcans est régulièrement suivi, mais comme c'est un phénomène naturel qui ne peut agir que quand lui estime qu'il faut agir, il ne faut pas totalement croire qu'il y a quelqu'un qui peut maîtriser totalement un volcan. Parce que si on pouvait le maîtriser, on prédirait ce qui pouvait se passer. On sait qu'il y a des failles qu'on peut avoir observées à gauche et à droite, et je ne suis pas là pour couvrir les failles qui peuvent s'être produites dans le déroulement de cette catastrophe. Maintenant, l'autre élément, je l'ai évoqué, la menace qu'il y a dans les lacs Kivu, c'est aussi la présence du gaz méthane et du gaz carbonique. Et le gouvernement avait déjà signé, je crois, un contrat avec une entreprise tunisienne, FPM, je crois que c'est bonne mémoire, qui a déjà gagné les marchés pour devoir exploiter les gaz méthane pour produire l'électricité en faveur de Goma et ses environs.
Mais pour l'instant, également, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les dangers sont permanents. On parle de ces problèmes de cendres, des gaz et que les gens sont en train d'inhaler, et ces problèmes de secousses. Qu'est-ce que l'on peut faire? L'auditeur ici a fait certaines propositions. J'ai même posé la question à Mario Ngavo de la société civile au sujet de l'éventualité de la délocalisation, n'est-ce pas, de la population de façon momentanée. Est-ce que le gouvernement pourrait envisager une telle éventualité?
Là encore, j'ai participé à l'élaboration du plan de contingence qui définit effectivement la manière dont on doit délocaliser la population, la manière dont on doit faire la sortie, les sentiers, par où passer les véhicules, les hommes, les bêtes. Ce plan, je le connais parfaitement. Mais l'autorité qui est habilitée à devoir annoncer la décision d'évacuation de la population, c'est le gouverneur. Et le gouverneur ne le dit pas par complaisance. Il ne peut le dire que lorsque les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma lui indiquent la voie à suivre. Parce qu'il ne peut pas se lever un matin et dire, vous, la population de telle part, nous vous demandons de partir. C'est pourquoi, dans ces communications, vous attendez le gouverneur en train d'appeler la population à la vigilance, d'observer un certain nombre de mesures liées à la cendre qu'on venait de l'évoquer tout à l'heure. Et même ce matin, les experts nous ont dit, on ne peut plus demander à la population de ne pas seulement utiliser l'eau, mais on interdit la population d'utiliser cette eau. Parce que avant, on pouvait permettre à ce que la population utilise l'eau de pluie pour laver les assiettes, pour laver les habits. Mais maintenant, la nouvelle décision qui est sortie dans la réunion scientifique tenue ce matin, c'est qu'il est même strictement interdit à la population de Goma d'utiliser l'eau de pluie qui ramasse toutes ces cendres et toutes ces particules qui sont nuisibles et au corps humain et à l'ensemble des éléments qui peuvent être périphériques à l'homme.
Oui, donc vous sentez même qu'il y a l'urgence, il faut nécessairement prendre des décisions. C'est comme l'eau, hein. Lorsque les gens manquent l'eau, ça va entraîner des maladies, ça peut entraîner même la mort. Donc il faut urgemment intervenir. Et qu'est-ce que vous voulez dire à cette population qui vous suit maintenant? Est-ce que elle peut espérer que d'ici deux jours, trois jours, elle peut accéder à l'eau potable?
Je peux rassurer la population que toutes les 30 minutes, nous recevons et l'appel du président de la République et l'appel du premier ministre pour nous dire qu'est-ce qui se passe exactement là-bas, qu'est-ce que nous pouvons encore faire. C'est ça l'essence de la présence de la délégation sur le terrain, pour aider effectivement l'autorité locale à avoir une connexion directe avec l'autorité centrale, afin de prendre des mesures qui dépendent de l'autorité centrale et accompagner celles qui dépendent de l'autorité provinciale. Donc, par rapport à la question, de manière précise, nous avons été voir les spécialistes de la régie des eaux qui nous ont ramené là les points de sortie de l'eau potable. Ils nous ont rassuré effectivement que dans une dizaine de jours, on peut être en mesure non pas d'accorder de l'eau potable à l'ensemble des populations sinistrées, mais au moins déjà partiellement à quelques quartiers, en attendant le rétablissement de l'ensemble du réseau de distribution qui prendra un peu de temps. Mais une solution alternative, c'est celle d'organiser des convois d'eau à partir du lac Kivu en direction des quartiers périphériques pour qu'on se rassure qu'effectivement la population, à défaut d'accéder à l'eau de façon gravitaire, accède même à l'eau convoyée à partir du lac, mais avec une précision que cette eau doit être d'abord préalablement traitée pour ne pas inoculer des maladies d'origine hydrique à la population.
Merci. Nous avons annoncé le professeur Albert Tiengé Ungenangenda, mais on n'arrive toujours pas à les joindre. Marion Gavo, vous êtes président de la société civile urbaine de Goma Nord Kivu. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi.
C'est George Ento depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Notre stratégie est celle de doter l'OVG de matériel qui répondent aux normes internationales nécessaires pour son bon fonctionnement. Car nous venons d'apprendre ce matin avec souci que la DGDA venait de libérer par contrainte les matériels de l'OVG qui étaient bloqués dans ces entrepôts faute de paiement. Nous demanderons également au gouvernement de mieux coopérer avec l'OVG pour remettre à cette dernière les moyens adéquats pour faire face aux pareilles catastrophes naturelles, car aussi longtemps que la nature existe, l'éruption volcanique et d'autres catastrophes naturelles existeront toujours. Nous savons qu'il est impossible d'éviter les catastrophes naturelles, néanmoins on peut les prédire par l'OVG pour mieux y faire face, car nous disons qu'il faut mieux prévenir que guérir.
Marion Gavo, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. Je remercie l'auditeur, mais nous pensons que tout ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de la chose publique et la responsabilité du gouvernement. Je connais pas trop la libération de ce matériel qui est libéré. C'est pas par force, mais nous appelons toujours les gestionnaires du pays, n'est-ce pas, de prendre au sérieux la gestion du volcan et de prendre au sérieux la gestion du gaz méthane du lac Kivu. Parce que s'il n'y a pas la rigueur dans cette gestion, dans la recherche, nous allons nous trouver toujours, chaque 10 ans, chaque 20 ans, à des calamités comme ça, alors qu'on pouvait bien les prévenir avant. Je ne comprends pas comment un service étatique peut, n'est-ce pas, bloquer le matériel qui va au même, n'est-ce pas, essayer de sécuriser sa propre population. Donc nous, nous pensons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et ce n'est pas question de négociation parce qu'il a en charge, n'est-ce pas, la responsabilité de sécuriser les personnes et leurs biens au lieu de parler seulement politique ou au lieu de parler seulement fiscalité.
Vous souhaitez qu'on comprenne au sérieux la gestion du volcan et de la présence du gaz dans le lac Kivu. Et donc, quand vous voyez ce qui s'est fait jusque-là, vous êtes convaincu que le pouvoir public n'a pas pris en compte cette menace qui est permanente?
C'est ce que nous avons dit même au début, que le gouvernement devait prendre ses responsabilités, n'est-ce pas, de protéger, de sécuriser les personnes et leurs biens. Donc, si il y aurait l'information à temps, on ne pourrait pas arriver, n'est-ce pas, à toutes ces conséquences. Et je ne comprends pas comment une entreprise comme la DGDA peut bloquer le matériel destiné à surveiller pour sécuriser la population. Donc, d'une part, au niveau du ministère, nous pensons qu'il faut prendre ses responsabilités et savoir pourquoi on est là. C'est pour la population, pour le bien-être de la population. Sinon, chaque 10 ans, chaque 20 ans, nous allons assister aux calamités comme ça et qui causent toutes les conséquences comme celles que nous sommes en train de vivre ici parce qu'on n'a pas été informé, parce qu'il n'y a pas de surveillance.
Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le message, Marion Gaveau, que vous pouvez adresser à la population de Goma pour essayer de la tranquilliser, de la rassurer face à cette épreuve à laquelle elle fait face depuis quelques jours?
Le message de la société civile à toute la population de Goma, c'est un message de paix. C'est un message qui vient vraiment du fort de compassion. Et nous appelons, par le biais de ce dernier mot, à la solidarité entre les populations. Nous savons que on ne peut pas aider tout le monde. Et le gouvernement n'est pas à mesure urgentement d'aider tout le monde et tous les secteurs, comme a dit le co-débatteur Julien Paluku. C'est pourquoi nous pensons que chacun qui a, n'est-ce pas, un verre d'eau, qui a un kilo de sucre, qui a un peu de nourriture, qui a quelques vêtements, quelques tôles, n'est-ce pas, peut monter vers vous et essayer d'aider les personnes sans en faire une publicité. Nous appelons donc la population à respecter les orientations des gouvernants et des gestionnaires du volcan. Nous l'appelons encore à éviter de se déplacer vers le parti où il y a les laves ni des fissures souterraines au risque d'être asphyxié. Nous demandons donc de respecter les mesures d'hygiène alimentaire, corporelle et communautaire. Et nous disons au gouvernement que l'aide qu'il apporte à la population doit respecter les valeurs des bénéficiaires, et en quantité et en qualité.
Merci beaucoup Marion Gaveau. Monsieur le ministre Julien Paluku, votre mot de la fin.
Moi je pense que le président de la société civile a donné un très bon message et je voudrais me rallier à lui pour appeler la population à continuer à suivre les orientations qui lui seront données par l'autorité compétente. Si l'autorité estime qu'il y a gravité, il faudra que la population apprenne à suivre toutes les orientations qui lui seront données. C'est ça le message de fin que je peux donner en m'associant à toutes les douleurs que l'on a ressenties et en demandant à l'OVG de continuer à suivre les volcans parce qu'il en va de la vie de nous tous.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a été la technique et à Dona Madimba qui a réalisé cette émission. À la présentation, Guy Maxé. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.